bitte vor.
Philippe Leroux est compositeur, auteur d'une quarantaine d'œuvres pour orchestre symphonique, acousmatique, vocal et aussi pour des dispositifs électroniques. Invité par le GMEM dans le cadre du festival Les Musiques, il nous propose pendant une heure une écoute de sa playlist, donc une sélection musicale qui permet de retracer son parcours. Bonjour Philippe Leroux.
Bonjour.
Alors, comment avez-vous accueilli, tout d'abord, je vous pose une question, comment avez-vous accueilli cette proposition de la playlist et comment vous l'avez un petit peu pensée?
Bah écoutez, je sais pas, avec plaisir, parce que, les émissions de radio, on a souvent, les choses sont souvent faites à l'avance, et puis là, voilà, ça laissait un peu de marge, un peu de liberté, ce qui est bien agréable.
Alors c'est vous qui allez nous guider hein, dans le.
Voilà, alors j'ai pensé des choses que j'aimais bien, qui sont importantes pour moi et qui en même temps sont un peu variées parce que elles touchent à différents styles musicaux. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'une pièce à moi qui est pour voix ensemble électronique, qui s'appelle Voirex. Voilà, après on va.
Donc voilà, ce sera la seule œuvre, on va dire, composée par vous que l'on va entendre pendant cette heure d'émission. A priori, hein, peut-être qu'il y aura d'autres surprises. Je ne sais pas.
Il se pourrait qu'il y ait une surprise.
D'accord, très bien.
Mais bon, voilà. Puis bon, après, on va voir différentes choses du grégorien, du jazz, de la musique ainou. Voilà, du Debussy, un disque pour enfants, enfin, différentes petites choses. Voilà.
Alors, on commence par quoi?
Alors, on commence par un organome du Xe siècle, Hugues Jacobo, donc qui commence par un grégorien soliste, hein, et qui après donc enchaîne sur la partie organale avec plusieurs voix. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important pour moi, la connaissance de cette musique-là. parce que c'est une musique qui s'affranchit complètement de l'aspect scalaire et de l'aspect rythme obligé des musiques classiques et aussi modernes au sens ce qu'on appelle les musiques actuelles en général, qui fonctionnent toujours sur une pulsation. Les musiques classiques qui fonctionnent quasiment tout le temps sur une mesure. On est tout le temps obligé de se cadrer finalement dans un... dans quelque chose d'assez scalaire où il faut vraiment... On est obligé d'approximer tout le temps pour rentrer dans le cadre. Voilà, une espèce de lead procuste musical. Et le grégorien, c'est quelque chose qui est complètement libre parce qu'en fait la musique est née du texte. Donc elle suit les contours du texte. Donc elle s'affranchit complètement d'une rythmique figé. Et la notation elle-même est très très liée au mouvement, à l'idée de mouvement. Moi j'ai une expérience par exemple comme ça très très forte. C'est un jour je dirigeais un chœur et puis j'essayais de leur faire faire une quinte ascendante, comme ça, comme exercice vocal d'échauffement, etc. Et puis en faisant ça, je me suis rendu compte que le geste que je faisais pour leur faire faire ça, c'est exactement la même chose que le neume grégorien qui correspond à cet intervalle-là. C'est ce qu'on appelle le podatus. Et alors, c'est exactement. C'est-à-dire que les moines les chantres du Moyen-Âge, quand ils écrivaient cette musique-là, ils faisaient exactement le même signe que le geste que moi je faisais avec mon cœur pour leur faire faire la même chose. Donc c'était une expérience très intéressante de se rendre compte qu'il y avait une relation extrêmement forte entre le signe utilisé et puis le son et le geste. Mmh. Voilà, ça a été fondamental pour moi dans ma musique.
Donc vous l'avez rencontré cette musique-là à peu près à quelle époque ou à quel moment dans votre parcours ?
Moi, disons que j'avais à peu près, je sais pas, 17-18 ans. Quoi. Ah oui. Donc là, j'ai approfondi... j'ai essayé d'approfondir un peu, donc je me suis mis à apprendre à lire ça, à lire les grégoriens. Donc je suis allé dans les monastères où ils chantaient ça. Enfin bon, toute
une petite retraite.
et ça m'a apporté beaucoup. Et c'est là d'ailleurs, et c'est un peu plus tard, mais c'est lié à cette expérience-là que j'ai écrit une des pièces qui va être jouée demain, qui s'appelle Je brûle, dit-elle un jour à un camarade, qui est une pièce pour voix solo, voix de femme seule. Et qui fonctionne sur ce système d'écriture. Donc il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de croche, il n'y a pas de division comme ça. C'est uniquement des sortes de gestes sonores qui sont calligraphiés et qui conduisent le son.
Très bien, on écoute.
Yeah.
Donc voilà, Huic Jacobo. Alors ça, c'est l'ensemble Venance Fortuna qui chantait cette belle plage du livre de Saint-Jacques de Compostelle. L'extrait que
j'ai...
Oui.
Ouais, j'ai envie de vous demander comment, peut-être pas comment on devient compositeur, mais qu'est-ce qui a été, j'ai posé un peu la même question à Roland Osé, pour vous, le déclencheur, la musique qui vous a fait, qui vous a donné envie peut-être d'aller dans cette direction. Est-ce qu'il y a une musique déjà ou c'est plutôt une rencontre ?
Eh bien, ouais, ça tombe bien que vous posiez cette question-là, parce que finalement, l'extrait qu'on va écouter, c'est un peu lié à ça. En fait, j'ai des frères et sœurs plus grands que moi, et j'avais un frère notamment qui était très, très passionné par la musique en tout genre, et donc qui me faisait écouter beaucoup de jazz, par exemple Chris Barber qu'on va écouter, mais aussi bon, du Stravinsky, du Satie, du Pierre-Henry, c'était très varié, quoi, et ça, je lui dois beaucoup de ce point de vue-là. Alors, comment on devient compositeur ? Eh bien, c'est bizarre. Eh bien, disons que jusqu'à l'âge de 10 ans, on ne s'intéresse pas du tout à la musique, en ce qui me concerne. Et puis, d'un seul coup, il y a une envie absolument énorme de jouer d'un instrument. Donc là, c'était la guitare à cette époque-là. Et donc, là, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que je suis allé... comme ça, à 11 ans, je suis allé m'inscrire dans un conservatoire de moi-même, voilà, comme ça, parce qu'il fallait, c'était une nécessité absolue d'apprendre à jouer d'un instrument. Et donc, pour ça, je suis allé voir un cours, et il devait jouer de la musique, sans doute élisabéthaine ou quelque chose comme ça. Et c'était tellement décalé par rapport à tout ce que j'entendais à la radio, à la télé, enfin la télé à cette époque-là, c'était encore pas grand-chose, mais bon. Que ça m'a vraiment fait un gros choc, en fait. Ça m'a transporté complètement, temporellement, dans une autre époque, etc. Et vraiment, bon, du coup, là, je me suis inscrit. Et puis, mois de septembre, je suis allé à mon premier cours de guitare. Et puis, je suis revenu, j'ai composé une pièce. Voilà.
Quoi, du premier cours ?
Ouais.
Donc, vous étiez un peu doué, quand même.
Je sais pas, je connaissais même pas le solfège, j'étais abominable. Donc... Mon problème, c'était d'écrire cette pièce. Mmh. Alors, ma mère qui avait appris le solfège à l'école, parce qu'il y a un certain temps, on apprenait la musique à l'école, m'a appris le solfège sur la table de la cuisine, etc. Et donc, j'ai commencé à écrire mes morceaux, etc. Puis voilà, puis après, ça ne s'est plus arrêté, quoi. Jamais. Voilà. Et c'est toujours...
Ça ne s'explique pas vraiment, c'est comme une nécessité.
C'est une nécessité.
Qui était là.
Et puis c'est un plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est agréable de composer de la musique. Vous savez, des fois je travaille, je m'arrête, je me dis mais qu'est-ce que je suis heureux là, c'est génial. Voilà. Alors Chris Barber...
Il n'y a pas l'angoisse de la page blanche, comme l'écrivain ?
Non, quand il y a la page blanche, il suffit de laisser un petit peu de temps, faut se détendre, relaxer, puis ça va naturellement. Bon, en plus c'est vrai que je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de commandes, beaucoup de choses, donc... Bon, les choses viennent.
Oui,
je travaille quasiment tous les jours, vous savez. Donc, il y a une telle habitude que les choses viennent vraiment naturellement. Quoi. C'est rare que ça bloque. Et quand ça bloque, c'est un bon moment aussi. Pas facile, mais stimulant. C'est super. Ouais.
Voilà un compositeur heureux.
Oui, absolument.
Donc, Chris Barber.
Alors, Chris Barber, bah, justement, c'était un de ces morceaux que mon frère me faisait écouter quand j'étais enfant. Et c'est une musique. Bon, je suis pas un grand connaisseur en jazz, bien que j'apprécie beaucoup, mais c'est une musique dont, enfin, moi, ce qui m'a marqué et ce qui m'a, comment dire, beaucoup influencé, c'est l'aspect de l'énergie. C'est l'énergie qu'il y a dans cette musique-là. Alors ça, c'est, je pense que c'est un style. Je connais pas très bien, mais je pense que c'est plutôt middle jazz, New Orleans à l'anglaise, parce que Chris Barber c'est un anglais. C'est l'enregistrement d'un concert à Londres, je crois, au Palladium. Et ce qui est fascinant, c'est cette espèce d'irruption d'énergie, mais qu'on trouve, bon, évidemment, chez plein de jazzman, mais je pense à Duke Ellington, par exemple, il y a certains morceaux, mais on a l'impression que c'est accéléré, que la vitesse est accélérée, tellement la précision, c'est hallucinant, quoi, cette espèce de précision rythmique, voilà, je suis fasciné par ça.
Thank you very much and a very good evening to you. May I welcome you to the London Palladium. on behalf of Jazz News for this poll winner's concert, given this evening by the Chris Barber Jazz Band with Ottilie Patterson.
Chris Barber, voilà.
Mais c'est drôle parce que c'est votre culture, vous disiez.
Ben oui, ça, c'est une partie de ma culture et je suis très imprégné de ça. Ouais. L'année dernière, j'étais à San Francisco pour un concert et Bon, ça n'a rien à voir avec cette musique-là, mais je me suis retrouvé dans San Francisco, dans un embouteillage, parce qu'il y avait un enterrement. C'était vraiment incroyable, parce que, c'était l'enterrement d'un... Je pense d'un Chinois, je ne sais pas. Alors, donc, il y avait une voiture dans laquelle il y avait le cercueil qui avançait à 5 à l'heure. Voilà. Donc, ils faisaient un embouteillage absolument monstre. Et puis, toutes les 4 minutes, ils arrêtaient la voiture. Ils sortaient un portrait du défunt. Et alors, tous les gens qui suivaient le convoi de la famille venaient se mettre autour du portrait. Et il y avait un big band qui jouait un morceau. Et puis, ils repartaient. 5 minutes après, il s'arrêtait, ça recommençait. C'était absolument géant. Et bon, ça fait penser à ça parce que c'était, il jouait du New Orleans en fait. Et c'est vraiment très étonnant, quoi. J'aime bien c'est cet aspect donner un côté, enfin, qui est de la vie même dans la mort finalement. Voilà, c'est un peu ça. Alors j'ai amené un autre morceau après qui est un morceau d'un compositeur français qui s'appelle François Paris qui vit à Nice. Et alors lui, il travaille, je connais très bien parce qu'on a vécu ensemble en Italie parce qu'il était pensionnaire à la Villa Médicis et moi aussi donc on a passé je crois un an ou un an et demi à la Villa Médicis tous les deux. Donc on se connaît assez bien. Et c'est un très très bon compositeur et il travaille beaucoup, lui, sur les micro-intervalles, donc des intervalles plus petits que le demi-ton, et sur des échelles de tempérament. Vous voyez, bon, on connaît tous le tempérament égal de Jean-Sébastien Bach ou d'autres personnes qui divisent l'octave en 12 demi-tons, etc., mais qui a un fonctionnement complètement arbitraire, qui est un parmi d'autres. Alors lui, il travaille sur d'autres types de tempéraments. Donc ça donne une musique assez, assez étrange et très intéressante.
François Paris.
Thank you.
Voilà, c'était François Paris, les Confessions silencieuses. D'ailleurs, il y avait Donatienne Michel Danzac qui chantait dans ce, qui était une des chanteuses de la pièce et qui a chanté aussi dans le concert à la Friche.
Samedi dernier.
Samedi dernier, voilà. Alors, l'extrait suivant, en fait, c'est un extrait d'une musique, d'une berceuse japonaise, ou plutôt Ainu, qui est avec donc une langue un petit peu différente du japonais. Et là, ce qui est assez fascinant, outre l'aspect aussi du travail sur les modes, etc., c'est le travail vocal, la vocalité qui est absolument étonnante. On a quand même en Occident un énorme problème vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que les chanteurs ont très souvent une technique vocale qui est faite d'une telle façon que ça leur empêche de faire beaucoup de choses. Mmh. Alors c'est une technique vocale qui est fondée sur le fait de pouvoir émettre avec un maximum de puissance parce qu'à l'époque les micros n'existaient pas, qu'il fallait pouvoir chanter dans des très grandes salles, etc. Mais par exemple, je pense que pour 99% des chanteurs formés à l'occidental, on ne pourrait pas leur demander de faire ce que fait cette femme qui berce son enfant à Ainu. Donc, je propose qu'on écoute, puis peut-être on en reparle après.
Samo etes na emo koriak ne ho. O ho ho. Kuyo taki wa pirika amam koso paki wa ho. O ho ho. E ema ne ya pirika nispa ne pirika ainu ne ho. E anko ne na ho ho. O ho ho. Etes wa ne ya ko. O kim ne wa ho ho, o koko o seta o ko o ko chika o sapar ki wa ho ho, o krrrr ho ho, e tokpa takwa eri ispar ispa ho ho, ashi ito mana ho ho, I te ki tikno mo koro mo kota pan koko si ho ho, o krrrr ho ho, o krrrr ho ho,
donc voilà, vous voyez ces espèces de trilles vocaux, c'est magnifique, quoi. Alors c'est vrai que bon, il y a quand même toute une génération de chanteurs. En France notamment, qui commence à s'intéresser depuis un certain temps à ce type de travail et à pouvoir le faire surtout.
Mmh. Mais souvent les musiques traditionnelles, j'ai remarqué, sont de plus en plus écoutées en Occident voire analysées et pourquoi pas après en détournées, en tout cas retravaillées, mais ça devient une source. Possible aussi d'inspiration pour des compositeurs d'ici.
Bien sûr, oui. Bah, ça l'a toujours été. Hein. C'est vrai que Debussy, bon, par exemple, on sait tous le choc qu'il a eu à l'exposition universelle quand il avait entendu les premiers gamelans, etc. Bon, ça a énormément transformé son univers musical. Mais bon, c'est toujours actuel parce que vous n'imaginez pas à quel point les choses sont sclérosées à certains niveaux. Hein. Ouais.
Alors après, ce qui est difficile, c'est qu'on se dit que si ces musiques-là, un jour, disparaissent, parce que les traditions peuvent se perdre, alors comment va-t-on faire,
ouais, bah elles sont en train de disparaître. Par exemple, la langue Ainu est une langue qui est vraiment en voie de disparition, qui est remplacée par le japonais. Voilà.
Tous les compositeurs seront inspirés des mêmes choses.
Ouais. Il serait temps de s'en rendre compte, quoi. Et puis de faire quelque chose pour que ce soit pas le cas. Mais sinon, bon, je dirais que ça, heureusement, avant que ça disparaisse, peut-être que ça fait naître d'autres choses dans d'autres cultures, y compris dans la nôtre. Ça a une influence quand même assez forte, finalement. Donc, ça va se poursuivre. Voilà. On peut espérer ça. Un peu comme la culture amérindienne. Puisse poursuivre aussi de cette façon-là. Alors, L'extrait que je voulais passer après, c'est un disque pour enfants, voilà, puisqu'on est dans les berceuses Aïnou. Donc là, c'est une femme qui s'appelle Emmanuelle Lisère qui a lancé une collection de disques pour les tout-petits. Tout-petits, c'est vraiment à partir de 6 mois, quoi. Et qui s'appelle Tigouli, c'est édité chez Nocturne. Et le principe, c'est que ça ne raconte pas d'histoire. Voilà, on est loin des disques qui racontent une histoire avec des petites musiques qui accompagnent tout ça. Là, c'est une histoire qui se raconte elle-même en fait par le son, par des onomatopées, donc par des sons, des prises de son, mais mélangées à des sons instrumentaux. Voilà. Donc c'est à la fois un éveil au sonore et un éveil au musical aussi. Donc on peut peut-être en écouter un extrait. Alors tout à l'heure, on se disait qu'il n'y aurait qu'une musique de moi dans l'émission. Eh bien non, parce que justement, c'est moi qui ai fait cette musique-là qu'on vient d'écouter. Et parce que je trouve que, en tant que compositeur, je trouve qu'on a vraiment une responsabilité vis-à-vis des petits. Voilà. Mais pas dans l'idée de, comment dire, de les amener à notre... Ce qu'on est en train de faire, de les conditionner à notre manière.
Que ce soit des consommateurs de musique contemporaine.
Mais je trouve que c'est vraiment notre devoir de leur faire écouter autre chose quoi, que ce qu'ils écoutent en permanence, des chansons, voilà.
Et enfin, de leur proposer une alternative, en tout cas.
Une alternative, voilà. Et moi, ça a été un travail vraiment très intéressant, parce qu'avec Emmanuel, on a eu un échange vraiment très, très riche. Et comment dire, dans l'écriture que j'ai dû avoir pour écrire cette musique pour les tout-petits, hein, c'est vraiment les petits, quoi. En fait, j'ai pas du tout abandonné mon langage de compositeur, je dirais plus sérieux au sens de la musique symphonique, de concert, etc. Et j'ai vraiment, vraiment essayé d'écrire ma musique, mais en la mettant à portée d'enfants. Donc c'était très, très riche comme expérience. Voilà.
Que vous renouvellerez
Oui, dès que j'aurai le temps, parce que ça m'a quand même pris 3 mois. Ouais. Rien que pour faire ça, vraiment, j'ai fait ça très sérieusement. Et, oui, bien sûr, j'espère. Ouais. Alors, j'avais envie de passer un extrait d'un prélude de Debussy qui s'appelle La danse de Puck. Parce que c'est pareil. Bah, disons que peut-être ça rejoint un peu les préoccupations que j'avais quand je parlais du grégorien, c'est-à-dire d'une musique qui soit très basée sur le geste, finalement. C'est-à-dire que quand on l'écoute, c'est une musique qui... Ouais, à l'écoute, c'est une musique dans laquelle, finalement, on rejoue les gestes que la musique propose. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a un anthropologue qui a parlé de ça très bien, qui s'appelle Marcel Jousse, qui parle du rejeu, c'est-à-dire que lui, il parle du langage et il dit que quand on parle, en fait, on mime des gestes. Voilà, que l'appareil laryngo-buccal, en fait, fait des gestes. Et que quand on parle, c'est comme si tout le corps faisait les gestes des mots. Ouais, bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Eh bien, chez Debussy, dans cet extrait, par exemple, on voit très bien que les idées musicales ne sont pas des notes, ne sont pas des thèmes, ce n'est pas des mélodies, ce n'est pas des rythmes, ce n'est même pas des timbres, des couleurs. C'est du pur mouvement. Vous voyez, quand il fait... Qu'est-ce que c'est ça, hein? Ça, c'est du mouvement, voilà. Et l'idée musicale de cette pièce-là, c'est ça. C'est pareil.
C'est-à-dire que c'est presque le détail qui va donner une ampleur au morceau.
Oui, oui, c'est ça. Et puis surtout, c'est un pur, comment dire, une pure ligne, un pur mouvement. C'est voilà, il y a pas de, on peut pas dire que ce qui fait l'intérêt de ça, c'est pas une harmonie, c'est pas un accord, c'est pas do dièse, ré, sol dièse, mi, je sais pas, vous voyez, ce qui compte, c'est juste le tracé. Voilà. Donc ça, c'est une chose pour moi extrêmement forte, d'abord parce que elle suscite chez l'auditeur du mouvement, et donc là, on est loin d'une musique contemporaine totalement hermétique, totalement intellectuelle, totalement cérébrale, mais on est dans quelque chose qui associe l'auditeur, en fait, à l'écoute de la musique. Et puis, voilà, oui, c'est le plus important, je crois. On vient d'écouter le prélude de Debussy par Ciccolini. Et le dernier extrait que je voulais vous proposer est un disque d'un compositeur français qui s'appelle Christian Zanesi, qui est un compositeur de musique acousmatique ou de musique de son fixé, comme on dit. Donc de musique électroacoustique. Et qui est un compositeur vraiment extrêmement intéressant. Alors la pièce s'appelle Saphir, Sillon, Silence. Et elle est construite uniquement à partir de prises de son, en fait, donc de grattements de saphir sur des micro-sillons. Et c'est un travail absolument magnifique. Alors, donc la pièce de Christian Zanesi qui s'appelle Saphir, Sillon, Silence. Et pour moi, la musique électroacoustique est quelque chose qui a une importance fondamentale, toujours d'ailleurs. Mais justement, parce que c'est une expérience du son, c'est pas une expérience de la structure musicale au sens de la note, de la croche, de la noire, c'est tous ces machins qu'on apprend. C'est une expérience vraiment du son, du mouvement du son. Voilà. Et donc, moi, ça m'a vraiment ouvert à penser la musique non sous forme de mouvements de son, ouais, et de gestes sonores. Donc c'est pour ça que dans toute cette émission, finalement, la question, que ce soit à travers le grégorien, à travers Debussy, à travers Zanetti ou d'autres, la question du mouvement était au cœur, quoi.
Vous utilisez des partitions, vous écrivez sur une partition?
Oui, j'écris sur une partition quand j'écris une pièce instrumentale, parce que bah, il faut transmettre, là, il n'y a pas de doute. Hein, il faut,
Mais avec des notes ou avec des dessins?
Avec des notes, mais souvent, enfin pas toujours, mais des notes qui sont pas forcément inscrites justement dans une métrique très particulière. Donc ça peut être sous forme de dessin, mais en fait, c'est quand même très écrit, parce que c'est une musique très précise, et puis bon, c'est une musique qui est jouée un peu. Dans pas mal de pays dans le monde, je ne peux pas être tout le temps là à dire, voilà, il faut faire comme ça et tout ça. Il faut arriver à transmettre là. Mais ce qui est important, c'est que la pensée, à la base, par contre, ce n'est pas une pensée de la note. Voilà, c'est une pensée du mouvement sonore.
Merci Philippe Leroux. On termine cette émission sur ces notes parlées. Pour ceux qui auraient raté le concert de samedi dernier à la Friche, je rappelle quand même qu'il y a une discographie de vos travaux que l'on peut retrouver donc sur disque. En l'occurrence, celle qu'on a écoutée au tout début de cette émission, qui faisait guise de générique, c'était Voix Rex, donc par Philippe Leroux, et c'est sorti sur Nocturne.
Voilà, c'est édité chez Nocturne, qui est un label qui édite beaucoup de jazz d'ailleurs, qui est plutôt spécialisé.
C'est votre dernier travail ou il y en a d'autres?
Non, il y a eu d'autres pièces plus récentes, non celle qui a été créée samedi, mais c'est mon dernier disque par contre.
Merci Philippe Leroux. Rendez-vous demain pour une autre playlist avec cette fois-ci le duo Sissi Gambis qui, je pense, va nous faire voyager dans des contrées lointaines. Tout de suite, les infos de Radio France Internationale.